Bonjour, Moutassem, amour avec vous. Bienvenue à ce nouvel épisode du podcast Pratiquer la méditation. Aujourd'hui, on va parler de l'application Petit Bambou qui, en quelques mois, a été téléchargée plus de 100 000 fois. C'est une application qui permet de s'initier à la méditation. Et pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir Benjamin Blasco, qui est le co-créateur avec Ludovic Dujardin de Petit Bambou. Donc Benjamin, merci d'être là.
Bonjour.
Et donc on va parler de l'application et de ce qu'elle a à offrir, mais avant cela on va parler de toi, de ton parcours. Comme c'est souvent le cas dans ce podcast, on va s'intéresser aux créateurs tout autant qu'aux produits. Donc tu es issu du monde digital, tu as travaillé pour une grande entreprise comme PayPal et tu décides de te lancer dans le projet de créer une application pour permettre aux gens de découvrir la méditation. Alors là, la première question que j'aimerais te poser, c'est comment toi-même as-tu découvert la méditation ?
C'est une bonne question. En fait, c'est au départ des amis qui m'ont parlé de leur propre pratique, ce qui m'a amené à acheter quelques livres, dont le livre de Mathieu Ricard, L'art de méditer. Et ensuite, j'ai commencé à m'y mettre, à pratiquer régulièrement, essentiellement avec des apps mobiles au départ, anglo-saxonnes, ce qui n'est pas trop qui existait en français. Et puis ensuite, j'ai décidé d'aller un peu plus loin, de faire des stages. Donc j'ai fait un stage sur les outils de la pleine conscience au Mont-Saint-Odile à Strasbourg, qui était super. Et donc c'est ce qui m'a amené à continuer à pratiquer et à lire toujours sur la méditation. Et ça, c'était il y a à peu près 2 ans maintenant.
D'accord. Et donc après 2 ans, il y a eu l'envie de partager cette expérience.
Exactement. C'est vrai que j'ai été assez convaincu par pas mal de choses, assez transformé, d'abord par ma capacité à redevenir un peu plus présent dans mon quotidien, à profiter plus de l'instant présent, à être moins pris dans mes pensées toxiques. Et puis c'est vrai que je me suis dit, j'ai constaté en fait en lisant des livres, en participant à des stages, que la plus grande complexité c'était finalement de s'y mettre et de pratiquer régulièrement. Et c'est vrai que j'ai eu envie de me dire pourquoi ça ne pourrait être réservé qu'à certains, pourquoi ne pas aider le plus grand nombre à créer une habitude autour de la pratique de la méditation. Et c'est vrai que le digital s'est un peu imposé naturellement, parce qu'aujourd'hui notre téléphone mobile il nous accompagne un peu partout et tout le temps, et tout le temps avec nous dans notre poche, parfois pour nous stresser, mais aussi pour nous apporter pas mal de bienfaits et de bénéfices. Et c'est vrai que l'idée de faire une application mobile est assez évidente finalement. Tout le temps dans ma poche, j'ai mon coach, mes méditations guidées qui m'aident à pratiquer régulièrement et où et quand on le souhaite.
Oui, donc il y a eu quand même ces circonstances qui sont assez exceptionnelles où tu as pu utiliser ton savoir-faire, ton expérience pour partager ce ressenti. Donc ça, c'était une belle opportunité qui s'est présentée, d'une part d'avoir pu vivre les bienfaits de la méditation et d'autre part d'avoir cette expérience dans le monde digital et d'avoir mis les deux ensemble pour travailler sur ce projet.
Oui, il y a une question d'expérience, d'expertise, mais il y a aussi une question d'envie, en fait, ou de goût. C'est vrai que l'idée aussi d'avoir un métier, un job, une start-up qui a beaucoup d'impact, beaucoup de sens pour les gens, est très important. En gros, de notre point de vue, il y a un problème, ou en tout cas une amélioration à apporter à la pratique de la méditation, et on essaie de tout faire pour l'ouvrir au plus grand nombre. Donc on est ravis d'abord, parce qu'on reçoit beaucoup, beaucoup de messages très positifs et encourageants de nos utilisateurs, et puis on voit que ça fait du bien à des gens de tous les âges, on va dire, depuis les enfants jusqu'aux plus âgés, et ça c'est formidable en fait. C'est une utilisation assez magique de nos compétences dans le digital pour faire du bien aux gens. Donc,
Oui, et comme tu le notais, c'est intéressant aussi d'avoir utilisé le mobile, qui, on en parle de plus en plus, que c'est souvent une source de distraction. J'ai lu un article où il disait qu'il ne se passait pas 7 minutes sans qu'au moins on regarde une fois son mobile. Donc ça nous coupe un peu des autres, ça nous coupe des ressentis, ça nous coupe de la vie quoi, qui passe. Et donc c'est vrai que ça a été... c'est presque jouer sur ça, utiliser ce support qui est toujours là, qui est toujours à portée de main, pour au contraire revenir vers soi et être plus attentif à ce qui se passe.
Exactement. Et on assume ce paradoxe. C'est vrai que c'est un paradoxe. C'est vrai qu'on se retrouve parfois un peu harcelé par son propre téléphone. Nous, on pense qu'il n'y a pas de mauvaise technologie. On pense que On pense que c'est surtout la façon dont on s'en sert. Après, il y a de mauvaises apps, etc. Mais globalement, c'est beaucoup ce qu'on en fait de ces technologies et le rapport que l'on a à elles. Donc, on pense que les technologies peuvent faire partie de la solution, font partie du problème, c'est sûr, hein, mais peuvent faire partie de la solution. Et pour ça, on a essayé de concevoir quelque chose qui est très, très zen et très, très dans le design, très, très pratique aussi, pour que bon, voilà, l'usage de notre application ne nous distrait, voilà, ne nous évite pas, ne nous empêche pas de profiter pleinement de notre méditation. Typiquement, on s'est débrouillé pour avoir un service qui fonctionne aussi hors connexion. Donc les gens peuvent se mettre en mode avion, précharger leur séance et se mettre en mode avion pour pouvoir méditer, bah, quand bon leur semble en fait, hein, et surtout pas être dérangés par leur SMS, par leur email, par les appels. Et les gens qui nous ont dit ça, qui nous ont dit, bah, moi je m'étais imposé une discipline de ne pas toucher mon téléphone avant d'arriver au travail, donc utiliser Petit Bambou, ça me gêne. Donc on leur a expliqué que bah, précharger ses séances, par exemple le soir, et le matin, toujours en mode avion, sans regarder ses emails, ses SMS, on peut tout à fait méditer et de façon très, très, très simple et pratique. Donc, et puis de manière générale, c'est vrai que si on veut changer son rapport aux technologies, bah, c'est un petit peu comme, je ne sais plus qui disait ça, c'est Lao Tzu, il faut être proche de son ennemi pour pouvoir le contrôler. Bah, le fait d'avoir une relation un peu intime avec son téléphone dans ce contexte de prendre conscience de ses pulsions aussi, de ses motivations à saisir son téléphone, à regarder ses emails, bah quelque part, c'est le meilleur endroit pour le faire. Et donc, on est, nous aussi, assez moteurs et assez soutien de toute la tendance, la mode autour du digital detox, donc se détoxifier de ces outils. Et on pense que la pratique de la méditation, en particulier, aide à cela.
Oui.
Donc, on aimerait bien que les gens utilisent moins leur téléphone. Toujours Petit Bambou, mais moins leur téléphone dans
Oui,
l'absolu.
c'est vraiment développer le discernement et savoir que c'est un outil qui est assez exceptionnel, qui ouvre les portes à des choses assez extraordinaires, donc au niveau de l'information, au niveau des outils qu'on peut utiliser, et avoir suffisamment de recul pour l'utiliser d'une manière équilibrée et pas plonger complètement dedans. Et d'ailleurs, moi, il y a peut-être 2 ans, j'avais téléchargé une application, un minuteur justement pour méditer. Et c'est vrai que la tentation de regarder les emails est quand
Ouais.
même là. Mais une fois qu'on intègre le fait qu'on est là pas pour ça, mais pour méditer, on s'adapte assez rapidement. Et c'est vrai que c'est une très bonne idée aussi d'avoir permis le téléchargement des séances pour pouvoir le faire hors connexion. J'aimerais savoir aussi, c'est comment vous avez pensé le déroulement du programme. Parce que je sais c'est quelque chose qui est évolutif. Les méditations guidées se suivent dans un ordre, elles ont une certaine durée. Donc, comment tu les as structurées? Comment ça a été structuré?
Alors, c'est la question un peu de la structure de la pédagogie, on va dire, de Petit Bambou est très importante. On a d'abord conçu un programme qu'on appelle Découverte, de 8 séances, qu'on a conçu vraiment comme une manière de mettre un pied à l'étrier ou de tester ou de voilà de tester un peu la méditation. Ces 8 premières séances durent 10 minutes. Elles sont toutes introduites par une petite vidéo qui explique un certain nombre de concepts, qui est extrêmement pédagogique. Excusez-moi. Et ensuite, on a voulu que ces séances permettent aussi de découvrir un peu les différentes pratiques classiques de la méditation, le body scan, le retour à soi, le retour à sa respiration, etc. Et ensuite, on a conçu un certain nombre de programmes qui s'enchaînent les uns après les autres, qui sont dans un ordre que l'on conseille aux utilisateurs, mais qui n'est pas obligé. C'est-à-dire que si les gens veulent commencer un autre programme, ils le peuvent. Donc, on a un premier programme qui s'appelle S'ouvrir avec des méditations d'une quinzaine de minutes. L'idée, c'est continuer à utiliser, découvrir les outils de la méditation de pleine conscience, mais sur une durée un peu plus longue, et de s'approprier cette durée un peu plus longue, avec des silences aussi un peu plus longs. Les premières séances sont parfois un peu bavardes, mais les suivantes commencent à s'alléger un petit peu pour apprendre à être moins anxieux à l'idée de méditer un peu plus en silence. Et ensuite, on a un programme fondamental qui, là encore, donne un certain nombre de briques, l'importance de la relation aux pensées, la relation aux émotions, la force du sourire, qui, lui, est à peu près une quarantaine de séances, d'une vingtaine de minutes cette fois-ci. Et ensuite, on a fait des programmes plus thématiques, autour du stress, autour de l'anxiété, autour de la compassion, ou pour différentes populations. On a fait des méditations pour les enfants, on a fait des méditations pour les étudiants aussi, à l'approche des examens ou en période de stress. On a fait des méditations dans les transports en commun. Et puis tout ce catalogue va continuer à s'étendre. On a aujourd'hui pas loin de 150 méditations guidées. On en aura bientôt beaucoup plus.
D'accord. Et par rapport aux utilisateurs, est-ce que tu peux savoir qui télécharge l'application? Quel est le profil type on va dire l'âge? Est-ce que c'est plutôt les femmes, plutôt les hommes? Est-ce que vous avez accès à ces informations?
Alors, on demande très peu d'informations aux utilisateurs. L'objectif, c'est pas de les suivre ou de les mesurer. Cependant, on voit le trafic qu'il y a sur notre site internet et on voit qu'il est plutôt féminin, effectivement, 65-70%. On voit également que c'est plutôt, on va dire, sur la tranche de 25 à 65-70 ans même, avec plutôt une surreprésentation des personnes un peu plus âgées. Par rapport au trafic habituel sur des sites internet. Donc on est ravis, en même temps on a l'intuition, c'est plus une intuition, que les hommes sont particulièrement fidèles et intéressés par notre application, parce que c'est vrai que la pratique de la méditation est parfois un peu intimidante, ou en tout cas il y a certaines nombre de personnes qui aiment regarder ça un petit peu secret. Et c'est vrai que le pratiquer avec une application mobile dans sa poche, quelque part ça peut rassurer un certain nombre d'hommes qui peuvent trouver ça un peu technologique, un peu branché, d'utiliser son application pour méditer. Donc on a vraiment une vocation à être assez universel. Tout dans notre contenu, dans nos designs, on veut vraiment aider tout le monde à méditer.
Oui, c'est vrai que les hommes sont assez pragmatiques. S'ils commencent à ressentir les bienfaits et à voir que ça les rend plus efficaces au travail, que ça leur permet de mieux communiquer avec leur conjointe, ils se motivent beaucoup plus à méditer. Et je regardais au niveau des statistiques, donc par rapport à différentes pages Facebook liées à la méditation, c'est vrai qu'il y a oui, une majorité de femmes, 70% de femmes. Et ce qui est intéressant, c'est que cette différence, elle diminue lorsque on regarde les personnes qui méditent depuis 24 mois ou plus. Ça a tendance à s'équilibrer.
Tout à
Donc,
fait.
une fois que les hommes aussi commencent à rentrer dedans et que ça leur fait du bien, ils ont tendance à persévérer. Alors ça c'est donc en parlant de persévérance, ça c'est souvent une question qui revient chez mes lecteurs, chez mes auditeurs, c'est comment faire pour être assidu dans sa pratique. Est-ce que vous, en tant qu'application Petit Mambou, est-ce que vous pouvez savoir, ce qui serait intéressant de savoir, c'est quel est le pourcentage qui s'arrête très, très prématurément, quel est le pourcentage qui continue déjà, et après, quel est selon toi les moyens, les outils qu'on peut mettre en place pour les aider à persévérer sur la durée.
Alors, on se rend compte qu'il y a effectivement deux types de populations. Il y a une population qui découvre la méditation, qui souvent fait une séance pour essayer, pour voir ce que c'est. Et souvent, ils reviennent, mais un peu plus longtemps après, une semaine, un mois, 2 mois, 3 mois, pour se mettre à vraiment pratiquer régulièrement. Et puis ensuite, il y a une deuxième partie de la population qui a vraiment pris la résolution de pratiquer assez régulièrement. Pas forcément quotidiennement, hein. L'idée, c'est d'avoir une forme de régularité. On veut pas être comment s'appelle, strict sur cette pratique. En tout cas, ce qu'on voit, c'est que c'est vrai que le mobile permet de l'insérer dans son quotidien. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui méditent plutôt le matin, au réveil, ou en arrivant au travail. Certains méditent aussi le midi, sur leur lieu de travail, souvent, avant le déjeuner ou pendant la pause déjeuner. En général, on constate qu'il y a quand même un creux au début de l'après-midi où c'est vrai que c'est pas forcément le bon moment. Après le repas, on a peut-être envie plus de faire une sieste. Et on voit aussi beaucoup de pratiques le soir. C'est un moment où on retourne chez soi, où on a envie de prendre soin de soi. Et la pratique de la méditation a beaucoup lieu dans ce contexte-là. Et c'est ce qu'on conseille finalement, hein, c'est de trouver son bon moment. Il n'y a pas une solution, il n'y a pas un bon moment ou un bon lieu pour le faire. Mais en tout cas, quelque chose qui soit intégré dans une forme d'habitude, à un moment qui nous parle. Et ça, Petit Bambou, l'utilisation de l'application est idéale pour ça, parce que chacun l'utilise quand il le souhaite. Il n'y a pas de contrainte finalement technologique particulière.
Oui, c'est vrai que c'est un grand plus parce que quand on commence toute nouvelle activité ou pour mettre en place toute nouvelle habitude, le moindre petit obstacle peut nous
Oui.
amener hors course, quoi, nous changer de direction et que ça soit que ce soit avoir froid, ou se sentir fatigué, ou trop manger avant. Donc il y a plein de petites choses qui, voilà, qu'il faut prendre en considération. Et c'est vrai que cet aspect très pratique, on n'a pas besoin de faire tout un rituel, on sort le téléphone, on a accès à la méditation guidée. C'est, oui, je pense que c'est un grand plus pour permettre cette mise en place de l'habitude de méditer.
Et puis il y a quelque chose qui nous tient à cœur. Les gens ont une relation un peu particulière au temps inoccupé, qu'on appelle parfois temps perdu, temps mort, qui sont des termes un peu particuliers. Nous, on pense que c'est un temps justement pour être présent. Ces moments dans le métro, c'est le moment dans une salle d'attente. Voilà, il y a plein de moments comme ça qui sont anodins, mais qui sont souvent on va dire dilapidés à des occupations plus ou moins intéressantes, soit des ruminations, soit des divertissements. Nous, on pense que c'est des bons moments au contraire pour prendre soin de soi. Et on glisse ses oreillettes comme ça, on branche son téléphone et on peut méditer. Ce que je fais moi, par exemple, quand mes filles vont à la natation, je médite dans le couloir de la piscine en attendant qu'elles aient fini leur cours. Voilà, c'est un moment que je dirais pas que je rentabilise, mais en tout cas où je profite de ce temps-là pour prendre soin de moi.
Et au niveau de l'aspect communauté, réseaux sociaux, parce que je sais que vous avez, que Petit Bambou a une page aussi de Facebook qui est assez importante, où il y a près d'un million de fans, ce qui est assez énorme, surtout dans le monde francophone. Est-ce qu'il y aurait un lien possible entre l'assiduité, l'envie de persévérer et et le fait de faire partie d'une communauté qui a un projet commun, est-ce que vous avez pensé à lier ces deux facteurs?
Alors oui, on y croit beaucoup. Au tout début, on est une jeune start-up et puis on fait avancer, on fait progresser notre service au fur et à mesure des demandes ou des suggestions des utilisateurs. Et c'est vrai que la dimension sociale commence à prendre un point important dans le service que l'on propose. Typiquement, aujourd'hui, on se rend compte que les posts réguliers sur Facebook autour de la sagesse, du bien-être ou de la pleine conscience sont autant de rappels pour les suiveurs, pour se dire, pour repenser à leur pratique, pour repenser à être présent, même si c'est quelques secondes au milieu de sa journée. Donc c'est des petits rappels finalement qui sont assez importants, d'autant plus qu'ils sont effectivement partagés avec toute la communauté. Donc on peut réagir, interagir. Voilà, on a demandé par exemple il y a quelque temps pourquoi est-ce qu'on se sentait aujourd'hui particulièrement de la gratitude. Voilà, c'est des petits moments de partage les uns avec les autres, où finalement les gens n'ont pas forcément besoin de se répondre les uns aux autres, mais en tout cas on sait qu'il y a une écoute attentive de la communauté à ses sensations, ses émotions du jour. Donc il y a une vraie notion de partage. On a commencé aussi à mettre en place sur Facebook des séances de questions-réponses avec des experts de la pratique de la méditation, ce qui permet à la communauté de venir à ce petit événement pendant 1 ou 2 heures et de poser toutes les questions sur la pratique, les difficultés, les facilités, pour progresser dans sa pratique. Twitter de la même manière, Instagram également. On a l'idée un petit peu d'aller aider les gens là où ils sont. On n'est pas encore une fois. On est extrêmement ouvert par rapport à tous ces réseaux sociaux. Et on réfléchit à terme à créer quelque chose de plus formel autour de la pratique, peut-être plus des groupes dans lesquels les gens pourraient échanger, discuter entre eux, s'écouter les uns les autres avec bienveillance, mais aussi échanger, pourquoi pas, avec d'autres experts.
D'accord. Ce choix, c'est que je mettrai le lien de la page Facebook, le lien aussi de l'application. Donc, si vous allez sur pratiquerlaméditation.com, rubrique podcast, et l'épisode, c'est Petit Bambou, vous allez découvrir tous les liens. Donc, là, lorsqu'il télécharge l'application, les premières méditations sont gratuites. C'est bien ça?
Oui, tout à fait.
Et après, s'ils veulent aller plus loin ou s'ils veulent des programmes plus spécifiques, ça, là, il y a des mensualités où ça devient payant. Donc ça, vous allez pouvoir découvrir tout cela en allant directement sur le site de Petit Bambou. Alors Benjamin, j'aimerais finir cet entretien en te posant trois questions. C'est des questions courtes, mais tu peux prendre aussi longtemps que tu veux pour y répondre. Donc, est-ce qu'il y a une habitude dans ton quotidien qui te fait du bien? Au niveau physique, au niveau de ta vitalité.
C'est vrai que de m'asseoir tous les jours, c'est assez basique ce que je vais dire, mais pour me connecter à mon souffle, à mes sensations physiques, me fait particulièrement de bien. J'ai tendance à, comme beaucoup de gens, à oublier un peu mon corps. et juste de lui de dire bonjour finalement avec une petite méditation à chaque partie de mon corps est très très importante. Ça réveille et ça reconnecte mon esprit et mon corps. Et je pense que ça me fait vraiment du bien au quotidien.
D'accord. Deuxième question. Quel est le conseil que tu as tendance, que tu as tendance à donner, ou bien quel est le conseil qu'on t'a donné qui a vraiment résonné en toi?
C'est une question pas facile. Je pense que c'est en relation avec ces technologies. Moi, c'est vrai que je prêche beaucoup d'amis auprès de beaucoup d'amis autour de moi qui travaillent dans le digital, qui ont souvent une relation assez forte avec les nouvelles technologies, à prendre un peu de recul, à se déconnecter, à débrancher son téléphone pendant des week-ends, pendant des moments, et surtout à regarder avec bienveillance toujours, mais ses propres pulsions pour saisir son téléphone, pour regarder ses emails, son Twitter, etc. Donc à prendre ce petit temps de latence qui, plutôt que de subir ses impulsions, ses automatismes, se poser la question si est-ce que c'est vraiment nécessaire à cet instant de regarder mon téléphone pour avoir une relation plus apaisée et plus sereine avec ses outils digitaux. Donc c'est vraiment les choses que j'essaie de conseiller autour de moi. Parce que j'y crois et je pense que c'est vraiment important pour si on veut préserver notre état de présence et conserver notre sérénité le plus longtemps possible.
Oui, et surtout venant de toi, ça doit parler aux gens, parce que toi-même, tu baignes totalement dans ce milieu.
Oui, et puis tous les jours, je me pose des questions sur ma propre relation aux technologies et c'est pas toujours facile, mais en tout cas, j'essaie d'être conscient quand j'ai cette relation-là pour pas agir en pilote automatique.
Très bien. Alors, troisième question, est-ce qu'il y a un auteur que tu suis en ce moment ou un enseignant que tu apprécies particulièrement?
En ce moment, je suis en train de lire Thich Nhat Hanh, Prendre soin de l'enfant intérieur. Et c'est très beau, cette écriture. C'est quelqu'un qui me touche beaucoup, qui est extrêmement sensible et qui a su rester dans l'époque contemporaine, qui parle de notre quotidien, finalement. C'est pas trop éloigné, c'est pas trop théorique. Donc c'est une belle découverte.
Oui,
Une belle
c'est un
découverte, en tout
auteur
cas.
que j'aime beaucoup aussi. Prendre soin de l'enfant intérieur. Thich Nhat Hanh.
Exactement.
Très bien. Très bien, Benjamin. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de partager avec nous ton projet, donc Petit Bambou, et ce qui est, on va dire, la création de Petit Bambou. Alors, je vais te laisser avec le mot de la fin. Comment tu vois tout ça évoluer au niveau de ce lien entre technologie et méditation et reconnexion à soi dans 5 ans, dans 10 ans? Comment tu aimerais voir les choses évoluer?
J'aimerais voir d'abord individuellement que les personnes, encore une fois, travaillent sur leur relation aux technologies pour avoir un usage raisonné. Nous, on croit très fort à une forme d'écologie de l'attention. On parle bientôt du sommet de la Terre, mais c'est la même chose, mais pour l'attention, finalement. C'est une ressource rare, l'attention, qui doit se ménager. Et donc, une conscience écologique de la part de tous les utilisateurs de digital est le premier aspect. Le deuxième, c'est vrai que j'aimerais bien que les fournisseurs de technologies, autant les terminaux que les applications, que les sites Internet, intègrent dans leurs outils une forme de respect de l'attention des utilisateurs. C'est-à-dire moins de signaux qui clignotent, moins de choses qui finalement détruisent ou fatiguent finalement les utilisateurs. Et permettre à chacun de régler comme il le souhaite son interface, sa relation, ses notifications. Voilà, ça c'est quelque chose auquel je crois et qui va évoluer au point d'avoir une relation très, très équilibrée entre technologie digitale et individu.
Merci beaucoup Benjamin,
Merci à vous.
et je mettrai donc le lien sous ce podcast pour découvrir Petit Bambou. À très bientôt.
À très bientôt.